C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 14 mai et aujourd'hui nous abordons la question des droits des animaux dans le cadre des expérimentations scientifiques.
Chaque année, ils sont des millions à être utilisés par les laboratoires de recherche, mais cet usage peut poser des problèmes en matière d'éthique.
Pour en parler, deux invités, Laurent Chazalviel, ingénieur d'études au CNRS et président du comité éthique normand en matière d'expérimentation animale, et Valentine Bouet, enseignante chercheuse en pharmacie et biologie, membre du laboratoire Comet.
Mais avant ça, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
On sait désormais qui se cache derrière le cerveau de Lockbit, le groupe de hackers le plus puissant du monde.
Dimitri Yurievitch Khoroshev, selon ne disait rien au FBI, il y a encore quelques jours, c'est lui qui se cache derrière ce surnom de Lockbit Sup, comprenez le boss du groupe. Lockbit est une véritable multinationale du hacking qui s'est construite et développée grâce à des franchises. Leur méthode, c'est de procéder par rançon, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à réaliser près de 7000 piratages, dont plusieurs hôpitaux français. Durement touchés par l'opération de démantèlement Chronos, en février, le groupe avait réussi à survivre à moindre échelle.
Et comment est-ce qu'on a réussi à mettre la main dessus ?
Ça faisait une bonne année que les fausses pistes se succédaient, et c'est donc mardi dernier que les certitudes du FBI et de son équivalent britannique Europol se sont confirmées, sans qu'on sache en détail comment le secret professionnel oblige. Khoroshev vivait à Voronezh, une ville située à 400 km au sud de Moscou. Le bureau des affaires publiques américain a promis 10 millions de dollars pour toute personne qui donnera une information permettant de le retrouver. Il encourt en théorie au maximum 185 ans de prison, même s'il est peu probable que les autorités russes se lancent à sa recherche. Le laboratoire Sanofi vient d'annoncer vendredi qu'il renonce à son vaccin contre le Covid-19.
Oui, après AstraZeneca, mercredi dernier, c'est au tour de l'entreprise française de retirer son vaccin anti-Covid du marché. Dans les deux cas, la raison invoquée est la même, l'offre de vaccins existante est suffisante et la demande mondiale est en baisse. Rappelez-vous, Sanofi, ça devait être le vaccin français contre le Covid, mais il avait finalement tardé à être homologué, largement dépassé par Pfizer ou encore Moderna.
Mais pour autant, Sanofi n'abandonne pas la filière.
Et non, puisque le laboratoire récupère l'exploitation d'un autre vaccin, celui de l'Amérique. Un Novavax. Un accord vient d'être conclu. Il prévoit la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe Covid-19. Ces derniers devraient être autorisés à la vente à partir de 2025. On a appris ce dimanche la mort du premier patient à avoir reçu une greffe de rein de porc.
Oui, Rick Sleiman souffrait de diabète de type 2 et d'hypertension. Il avait reçu en 2018 une première greffe de rein, humain cette fois-ci, un rein qui avait toutefois cessé de fonctionner l'année dernière. C'est donc à ce moment qu'est intervenu le rein de porc, une greffe qui avait alors constitué en mars dernier une première mondiale.
Est-ce que son décès a un quelconque lien avec sa greffe ?
C'est effectivement la question qu'on peut se poser, et c'est difficile à dire à l'heure actuelle. Certes, son décès intervient seulement quelques mois après cette greffe de rein de porc, mais pour le Massachusetts General Hospital de Boston, qui l'a opéré, il n'y a aucune indication qu'il s'agisse d'une conséquence directe de sa récente transplantation. En Corse, des mesures viennent d'être prises pour empêcher la disparition du balbuzard pêcheur.
C'est même une reconduction de mesures, pour être plus précis. Il sera interdit au moins jusqu'au 31 juillet de naviguer aux abords des nids de balbuzard pêcheur, cet oiseau emblématique de l'île de Beauté. Au total, ce sont 9 nids qui sont protégés sur 29. Alors pourquoi si peu ? Eh bien simplement car seuls ces derniers sont occupés.
Et cette mesure, elle est importante car le balbuzard pêcheur est en grand danger en Corse.
Oui, il est même inscrit sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature comme espèce en danger. D'ailleurs, il bénéficie d'un statut d'espèce protégée, et si je vous parlais des 9 nids occupés actuellement, dites-vous qu'ils étaient 15 il y a à peine un an. Selon un rapport du CNRS, c'est le tourisme qui est en grande partie responsable de cet effondrement de population. Le poison est toxique certes, mais il peut aussi soigner, et en particulier la dépression.
Oui, c'est le cas d'une substance hallucinogène que sécrète le crapaud River Toad qui vit en Arizona. Et c'est ce qu'ont montré les travaux d'une équipe de l'école de médecine américaine de Mount Sinai, c'est que contre toute attente, il pourrait bien être employé pour soigner la dépression. S'il est utile, c'est parce qu'il influe directement sur la sérotonine, l'hormone du bonheur.
Donc concrètement, qu'est-ce qui donne cette vertu à ce poison ?
Si les chercheurs se sont penchés sur ce crapaud, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'une substance toxique peut aider à soigner une maladie mentale. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils sécrètent donc ce poison, et plus précisément un hallucinogène nommé 5-MeO-DMT qui interagit avec un récepteur de la sérotonine. Avec ces travaux, les chercheurs pensent mieux comprendre ce qui peut moduler les récepteurs des mammifères. Reste à démontrer des effets probants sur les humains.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
En 2022, près de 2 millions d'animaux ont été utilisés par le monde de la recherche dans le cadre d'expérimentations scientifiques, un chiffre avancé dans la dernière étude publiée par le GRAAL, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal.
Et cet usage, il est souvent nécessaire au progrès et à l'innovation, mais il pose de nombreux problèmes en matière d'éthique, notamment à cause de la souffrance animale qu'il peut engendrer.
Et pour mieux comprendre les enjeux autour de l'expérimentation animale et mieux connaître les alternatives qui peuvent exister, nous recevons aujourd'hui Laurent Chazalviel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur d'études au CNRS et président du comité éthique normand en matière d'expérimentation animale. Et vous êtes accompagné de Valentine Bouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse en pharmacie et biologie, membre du laboratoire Comet. Alors aujourd'hui, quelles sont les règles qui existent en matière de droit des animaux concernant les expérimentations scientifiques ?
Oui, il y a tout un arsenal réglementaire qui a été produit donc, par une directive européenne qui date de 2010. Ah pardon, j'ai un problème de micro. Tout cet arsenal donc, réglementaire, donc, c'est suite à donc, une directive européenne de 2010 et qui donc, donne des droits, beaucoup plus de droits donc, sur la protection aux animaux et surtout les devoirs qu'ont les utilisateurs à utiliser donc, les animaux pour la recherche donc, scientifique sur l'animal. Quoi.
Et c'est quoi comme droit et comme devoir globalement ?
Alors donc, il y a eu les gros, c'est que tous les établissements, par exemple, doivent être agréés, c'est-à-dire que on ne peut pas faire l'usage d'animaux dans n'importe quelle structure. Donc ça va de l'hébergement des animaux jusqu'au nourrissage des animaux, des soins aux animaux. Notamment, donc il y a des vétérinaires maintenant qui sont dans ces structures. Pour apporter des soins plus précis, vétérinaires aux animaux. Ça va aussi par les compétences du personnel. Donc il y a toute une batterie de compétences à acquérir pour pouvoir pratiquer sur les animaux, en plus du cursus académique, bien sûr. Vous pouvez être docteur en neurosciences, mais en plus de ce cursus-là, on vous demande d'avoir une formation réglementaire sur l'utilisation des animaux qui vous donne un peu le cadre, le contexte et tous vos devoirs que vous devez avoir vis-à-vis de l'usage de ces animaux. Il y a aussi, après, donc, maintenant, la grande, c'est tout dans les laboratoires, donc les établissements utilisateurs, comme on les appelle, la création de cellules de bien-être animal, c'est-à-dire que des gens qui sont des cellules, des personnes qui sont plus, qui vont regarder le bien-être des animaux au sein de la structure, alors à la fois de l'hébergement de l'animal, mais jusqu'à la réalisation des protocoles sur les animaux, qui sont un peu les anges gardiens des animaux dans les laboratoires. Et puis notamment les fameux comités d'éthique qui sont maintenant devenus obligatoires depuis 2013 et pour lequel donc ils vont donner un avis éthique, mais cela ne va pas suffire parce qu'on donne simplement un avis et cet avis va être donné au ministère et c'est le ministère qui va autoriser les projets à être réalisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser une expérimentation sur un animal sans avoir une autorisation parce que là on va dans un délit de gestes de cruauté sur les animaux qui peuvent être punis par la loi.
Et on peut peut-être aussi ajouter la réglementation qui concerne les fournisseurs d'animaux, ceux qui produisent des animaux pour les laboratoires, sont aussi soumis à une réglementation spécifique pour eux.
Est-ce que certaines espèces sont particulièrement protégées ou d'autres à l'inverse moins protégées et qu'est-ce qui détermine cette protection ?
Alors oui, on a toujours ce grand débat. Alors est-ce qu'on devrait plus protéger une petite souris qu'un primate ? Alors on regarde un peu sociétal, on regarde effectivement les espèces qui sont les plus sensibles à notre regard sont les primates. Donc on a des espèces qui sont très les primates, les chats, les chiens, puisqu'on même s'ils sont de moins en moins utilisés, c'est vraiment une frange infime de la recherche sur l'utilisation des animaux. Mais oui, après, de l'ordre, c'est surtout on expérimente sur les rats, les souris, les poissons, notamment, de plus en plus, en fait, surtout des essais en toxicologique, mais en environnement, c'est souvent des poissons pour tester des substances, est-ce qu'elles sont cancérigènes ou pas, on teste de plus en plus sur ces espèces-là, qui sont des espèces dites moins sensibles. Et notamment, on a eu l'apparition dans la directive des fameux céphalopodes, donc les seiches et les pieuvres qui sont rentrés dans la réglementation, puisque justement la science a démontré que c'était des êtres doués d'une certaine sensibilité. Et donc ils ont été intégrés de par les avancées scientifiques finalement à cette réglementation et notamment ils sont protégés.
Ça veut dire qu'il y a d'autres animaux dont on n'a pas forcément des travaux avancés sur leur sensibilité qui eux par contre échappent à cette réglementation ?
Ben, on a toute une batterie, alors c'est ça qui est ce qu'on appelle les animaux qui sont appropriées à l'homme sont protégées finalement. C'est un peu un, je sais pas, c'est un peu la réglementation est, mais de point de vue général, hein, sur le droit des animaux est assez ambigu, puisque effectivement nos animaux, dès que vous êtes apparenté à l'homme, vous êtes protégé. Et dès l'instant où vous êtes un animal sauvage, vous n'êtes plus protégé. Regardez les animaux de chasse. Il n'y en a aucun. Un renard, est-ce qu'il est protégé? Ils sont protégés par le code de l'environnement, je voudrais tout relativiser, mais sinon il y a des espèces qui sont même dites nuisibles, et dans ce cas-là, on peut considérer des espèces nuisibles qui ne sont pas du tout protégées. Donc c'est un peu ce paradoxe.
Oui, c'est vrai que quand on pense aux rats, pour le coup, ils sont protégés, si on peut dire, dans l'expérimentation animale, mais pas tellement dans la vie sauvage, puisqu'on utilise des tas de produits pour essayer de s'en débarrasser, surtout dans les grandes villes. Et je voulais juste ajouter que c'est vrai que la réglementation s'applique aux vertébrés et aux céphalopodes, point. Ah, évidemment, il n'y a pas encore de réglementation pour les mouches, les moustiques, les crevettes, d'autres animaux qui peuvent être utilisés aussi dans les expérimentations, mais ils ne rentrent pas dans le cadre réglementaire de l'expérimentation animale. Et je voulais aussi dire, parce que parfois les gens ne le savent pas forcément, c'est que les chercheurs se doivent d'utiliser des espèces dites inférieures, si ça peut permettre de répondre à la question. Donc utiliser plutôt un poisson qu'une souris, plutôt une souris qu'un primate. Et l'autre chose aussi importante, c'est que en termes de protection des primates, il faut bien savoir que les grands singes ne sont plus autorisés du tout pour l'expérimentation animale.
Donc grands singes, ça va être orang-outan.
C'est orang-outan, oui, chimpanzé, gorille.
Et au niveau des maltraitances que peuvent subir les animaux quand ils sont utilisés en laboratoire, enfin, quelles sont-elles? Est-ce qu'on a un panorama?
Alors le terme maltraitance peut être choquant. Moi, je pense qu'on ne maltraite pas les animaux dans les laboratoires. Attention, justement, si c'est vu par les comités d'éthique, c'est eux qui vont garantir l'usage de ces animaux. À savoir que tous les protocoles vont être réalisés sous analgésie et anesthésie des animaux, s'il doit y avoir des interventions. Après, on a différentes classes de degrés de sévérité qui vont rentrer en compte et tout. Et donc, on va adapter l'arsenal pharmacologique pour prendre en considération leur souffrance, pour diminuer au maximum la douleur des animaux. Mais il n'y a aucune maltraitance, puisque la maltraitance est condamnée par la loi. Donc, ça peut être des peines qui sont assez lourdes, notamment. Ça peut être 3 ans d'emprisonnement et 70 000 euros d'amende, je crois. Ça peut être... les gestes de cruauté peuvent être dénoncés, ne sont pas... On n'a jamais vu, moi... Alors, il y a souvent des associations qui s'appuient sur des choses. Il peut y avoir des dérives, mais elles sont très, 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 très rares. C'est très, très contrôlé. Sachant qu'en plus, nous, on a les services vétérinaires. Donc, on a des inspecteurs vétérinaires qui peuvent, à tout moment, faire des inspections inopinées, c'est-à-dire rentrer dans les laboratoires à tout moment de la journée et puis vérifier contrôler ce qui est réalisé sur les animaux au sein des laboratoires.
Malgré tout, est-ce qu'il existe des maux ou des douleurs qui subsistent chez ces animaux-là? Qu'elles peuvent être? Comment ça se passe? Est-ce que tout est, entre guillemets, tout rose? Est-ce qu'il y a quand même parfois quelques débordements?
Ou simplement des risques qui peuvent avoir lieu?
Oui, après, évidemment, tout n'est pas tout rose. On travaille quand même sur des pathologies humaines de type cancer, de type pathologie animale aussi, bien sûr, puisqu'il y a de la recherche vétérinaire. On travaille sur des pathologies invalidantes, handicapantes, donc il y a des animaux, c'est vrai, paralysés, des animaux, c'est vrai, qui sont porteurs de tumeurs, et donc forcément, non, c'est pas tout rose, mais comme l'a expliqué Laurent, le chercheur se doit de mettre en place toutes les méthodes possibles de raffinement qui permettent de diminuer au maximum cette douleur. Après, évidemment, on est tout à fait conscient qu'il y a, dans certains cas, on n'a pas le choix, mais il faut avoir l'autorisation de le faire.
Et cet usage des animaux, est-ce qu'il a toujours existé dans la recherche scientifique? À partir de quand est-ce qu'on a commencé à les utiliser pour le progrès technique et scientifique?
Alors, l'usage des animaux, en fait, il date du néolithique, en fait. C'est dès que l'homme a commencé à produire et à faire de la production avec ses animaux. Et après, par la suite, vous savez, tous les plus grands philosophes et les Grecs ont commencé à disséquer les animaux. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Et après, c'est une réglementation qui... La réglementation est assez récente, par contre, ce qui est paradoxal. C'est vrai qu'à l'époque, on expérimentait aussi sur des gladiateurs. Hein, on expérimentait chez l'homme. Après, c'est vrai qu'effectivement, par exemple, pour la sécurité des médicaments, justement, si on peut en revenir là, justement, j'écoutais là tout à l'heure vos informations, là, vous avez parlé de recherche sur la sérotonine, il faut savoir que quand on va mettre en place donc une nouvelle substance pharmacologique, elle doit être testée, et la réglementation, elle date de, c'est à peu près 80 ans de réglementation sur la sécurité des médicaments, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Et donc à chaque fois, à chaque accident, mais c'est des, je vous parle de ça, en des centaines de morts, si on prend même le cas de la thalidomide.
Des morts humains dues à une ingestion.
Ou des fois de malformation. La thalidomide a été l'un des plus gros accidents pharmacologiques là, des années 70, où on a administré à des femmes enceintes cette fameuse molécule et qui a entraîné des malformations, ce qu'on appelle un aspect tératogène, qui en forme au nouveau-né. Donc il y avait un aspect tératogène. Et donc, eh bien, on a augmenté cet arsenal sécuritaire en utilisant des animaux. C'est-à-dire qu'avant, on n'utilisait qu'une espèce animale pour tester un médicament. Et là, on s'est aperçu que, ben, on l'avait testé sur une espèce animale, mais on avait eu des accidents. Et on a dit, ben, la réglementation a dit, on va tester sur 3 espèces différentes d'animaux pour voir si tous les animaux réagissent bien de la même manière à cette molécule. Donc, vous voyez, c'est pas venu comme ça...
Peut-être que pour la sécurité des médicaments, c'est arrivé un peu avant la partie expérimentation animale brute, parce que c'est vrai que quand on pense aux anciens chercheurs qui faisaient ce qu'ils voulaient, hein, il n'y avait pas de réglementation particulière, c'est arrivé un peu plus tard. Même il y a encore 30 ans, on n'avait pas tellement de comptes à rendre. Et là, on va dire que ça fait 30 ans peut-être que c'est devenu très strict au niveau réglementaire. Au niveau utilisation des animaux, ça fait un moment que...
Parce que la réglementation vraiment très spécifique à l'expérimentation animale en Europe, du moins, ça date des années 85, vous voyez, et on a eu une réforme de cette en 2010. Alors, c'est vrai que ça évolue aussi, c'est des sauts qui sont assez importants dans la réglementation, mais c'est toujours aussi cette sensibilité du public à cet usage et ces relations entre l'homme et l'animal qui sont en train d'évoluer, qu'il faut tenir compte et qui sont justifiées aussi. Et de notre côté, moi je travaille dans un laboratoire d'éthologie, on utilise des animaux à des fins scientifiques, mais on ne leur fait absolument pas de mal, mais ça nous permet de mieux appréhender la douleur d'un animal aussi, même en éthologie, on regarde les comportements, si on s'approche d'un animal, peut-être on a des aspects aussi psychiques, quoi. L'animal il n'est pas content de vous voir, il a envie de se replier, et on arrive à mieux comprendre les choses, et donc à mieux comprendre la sensibilité des animaux, et donc forcément après l'arsenal réglementaire va se mettre en place en disant, là on est en train de voir peut-être que même les décapodes, vous savez, les fameux homards, et nous les Français, les grands mangeurs de homards, on les bouillante, est-ce que c'est des êtres qui sont a priori aussi sensibles? Est-ce qu'on va continuer à pratiquer comme on le fait? Sûrement pas.
Et ces animaux qui subissent des expérimentations, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'il existe des élevages? Est-ce que systématiquement d'ailleurs ils sont en élevage? Et comment est-ce qu'ils sont récupérés pour la recherche?
Alors les animaux, alors il y a plusieurs origines en fait. Alors la principale source c'est des, comme je disais tout à l'heure, des fournisseurs agréés d'animaux pour les laboratoires. Alors en France, je crois qu'il y a 3 entreprises privées qui fournissent des rats, des souris, des poissons. Après, il y a des animaleries un peu plus... pas des animaleries comme Jardiland, quoi, hein, pas de pub. C'est à l'intérieur des établissements qui utilisent des animaux, on produit aussi des animaux. Par exemple, si on a une souche très particulière de souris, on veut étudier les petits de ces souris, ben on les produit sur place. Donc, il y a des animaux qui arrivent de là. Et puis, il y a des animaux aussi... des animaux aussi qui sont très peu d'ailleurs capturés dans la nature. Toi, tu sais peut-être un peu plus que moi là-dessus parce que tu travailles sur une espèce qui peut être capturée dans la nature, mais il y en a très très peu, vraiment très très peu. Donc voilà, c'est des fournisseurs officiels.
Avec les fameuses réglementations aussi dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Et est-ce que les animaux qui sont utilisés pour ces expérimentations, ils sont amenés à l'être à plusieurs reprises? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de retraite d'animaux une fois qu'ils ont été utilisés une fois, où on se dit on peut pas l'utiliser plus, ou est-ce qu'à l'inverse ils peuvent servir pour plusieurs expériences?
Oui, en théorie on a tout à fait le droit de les utiliser pour plusieurs expériences, mais seulement s'ils ont subi des procédures de degré de gravité léger. Parce qu'on n'a pas le droit, évidemment, de faire subir plusieurs fois des choses sévères à des animaux. Donc, c'est que dans ce cas-là. Et d'ailleurs, par rapport au nombre que vous avez cité tout à l'heure, sur le 2 millions, bon, c'est global, mais il faut bien se rendre compte que c'est 2 millions d'utilisation d'animaux. Ça veut dire que si un animal est utilisé 3 fois, ça compte 3.
D'accord. Si qu'une fois, ça compte pas forcément 2 millions
d'animaux. Non, c'est pas 2 millions d'animaux différents. C'est 2 millions d'utilisation d'animaux. Alors, certains sont réutilisés plusieurs fois. Quand on peut le faire, et encore une fois, quand le cadre réglementaire l'autorise, parce que c'est des procédures légères, on peut le faire. Sinon, il arrive aussi parfois que les animaux soient adopté. D'ailleurs, vous avez parlé du Graal tout à l'heure. Donc, le Graal est une association qui s'occupe d'essayer de réhabiliter les animaux de laboratoire après leur utilisation. Donc, c'est plus facile, bien entendu, pour des chiens, des chats ou des primates. Bon, on n'en a pas chez soi des primates, mais qui peuvent partir dans des zoos, par exemple, après avoir fini leurs expérimentations. Et on arrive quand même à, bah tiens, je peux en parler un petit peu, à faire adopter des rats et des souris. Et nous, dans notre établissement d'enseignement, là, à l'UFR Santé, on arrive chaque année à faire adopter les quelques dizaines de souris qu'on utilise en travaux pratiques, parce qu'elles font que des tests de comportement globalement. Donc elles peuvent tout à fait avoir une vie après. Donc là, cette année, le Graal a réussi à faire adopter toutes nos souris de travaux pratiques.
Et quelles sont leurs conditions de captivité, si on peut dire ça comme ça? Où est-ce qu'ils vivent quand ils ne sont pas utilisés pour des expérimentations scientifiques, pardon? Quelles sont les coulisses de ces expérimentations?
Écoutez, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, on s'est aperçu, notamment au Festival Turfu, parce qu'on était là aussi, parce qu'on a fait le Festival Turfu et qu'on a présenté un peu ces aspects-là au public. Et ça a été la critique de... Parce qu'en fait, maintenant, quand vous faites une demande d'autorisation de projet, d'accord, c'est-à-dire que vous expliquez votre protocole au comité d'éthique, vous allez remettre au comité d'éthique pour expliquer votre protocole que vous allez faire sur les animaux, vous devez rédiger aussi un résumé non technique, c'est-à-dire que c'est un résumé qui va être envoyé donc au niveau du ministère, voire au niveau de l'Europe sur la plateforme Allure, ça s'appelle, et qui va vous permettre à tout citoyen de voir ce qui est réalisé sur les animaux. D'accord, sur chaque projet que vous faites. Donc ça, c'est publié au niveau européen. Et j'ai perdu de fil.
Ben, dans quelles conditions sont hébergés les animaux?
Dans les conditions, donc elles sont très draconiennes, dans le sens où au Festival Turfu, dans le résumé non technique, les gens se sont posés, parce que nous on a tendance à mettre ce qui est réalisé sur l'animal d'un point de vue scientifique, et on a tous dit mais attendez, où sont hébergés les animaux? Et c'est vrai que dans le résumé, comme c'est un résumé, on nous demande de simplifier au maximum et on mentionne pas suffisamment comment sont hébergés les animaux. Alors il faut savoir que les animaux effectivement sont dans des situations très normalisées. Donc à savoir que nous on a des laboratoires qui sont parfaitement, on a du personnel en quantité suffisante pour pouvoir leur apporter tous les soins qu'il est nécessaire. Alors pour vous donner quelques idées, la température est régulée à 21 degrés plus ou moins 1 degré, à un taux d'hygrométrie de 55% plus ou moins 10%, avec une luminosité pour ces animaux qui va de l'ordre de au maximum à 100 lux mètres à 1 mètre du sol. Il y a toute des normes à respecter qui sont très draconiennes. L'air qu'ils respirent est totalement filtré. Donc on est quasiment dans des conditions stériles, de stérilité. Donc on est dans des conditions idéales, même si c'est des animaux qui sont détenus dans un milieu artificiel, on en est conscient. Après, ce qui s'est rajouté avec la directive, justement cette nouvelle directive, c'est cette notion d'enrichissement de milieu. C'est-à-dire qu'au niveau de la cage, avant on avait les standards, c'était des cages. Parce qu'en fait, la réglementation émanait un peu des standards vraiment de la pharmacologie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait de moins en moins de choses qui vont interférer avec l'expérimentation animale. Et puis on s'est aperçu que c'était pas forcément nécessaire. Et maintenant on va plus vers le bien-être animal, c'est-à-dire qu'on va raffiner un peu l'environnement de l'animal en mettant des jouets, en mettant les mêmes au niveau des litières. On va essayer, parce qu'on sait qu'elles vont fourrager, c'est-à-dire qu'elles vont faire des petits nids, de mettre des espèces de coton, comme de la ouate, pour qu'elles puissent nicher. Et on va essayer d'améliorer leur quotidien. On a des tailles de dimensions de cage qui ont doublé quasiment par rapport à ce qui a été fait avant, et puis on va essayer d'améliorer de plus en plus ces conditions d'hébergement.
Oui, finalement, c'est comme s'il y avait une sorte d'animalerie, en fait, dans une annexe des laboratoires.
Ah, c'est tout à fait ça.
D'ailleurs, on l'appelle l'animalerie.
Mais c'est, ouais, comme vous voyez, à Jarlyland, mais même, je pense qu'on a des standards, enfin, je pense à Jarlyland, d'autres galeries, attendez, excusez-moi. Mais voilà, on en arrive à des... avec des jeux où ils peuvent jouer, où ils peuvent s'épanouir, s'étirer, se mettre en retrait aussi, parce que maintenant on a ce fameux problème dans les aquariums. Je ne sais pas si vous voyez, à un moment il y avait des bassins tactiles dans les aquariums. Et bien maintenant, on arrive de plus en plus à enlever, ça va être de, les bassins tactiles dans les aquariums, on en verra de moins en moins. Et si ce n'est à l'heure actuelle, c'est que maintenant, on laisse la possibilité de l'animal de se cacher et de fuir. S'il n'a pas envie de vous voir, et regardez dans les zoos, maintenant même dans les zoos. Moi, j'ai ma petite fille qui est allée voir un zoo, elle m'a dit bah, on n'a vu aucun animal, parce que maintenant, on leur laisse la possibilité de se cacher du public. Donc voilà, je trouve que c'est des choses qui sont normales et qui doivent évoluer, on va dans le bon sens.
On continue de parler de la protection animale dans le cadre des expérimentations scientifiques, mais avant, on va faire une pause musicale. Écoutez Wish You Were Dead de Lola Young, à tout de suite dans C'est Pas Faux.
C'était Wish You Were Dead de Lola Young. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est Pas Faux. Et aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Chazalviel et Valentine Bouet pour parler de la protection animale dans le cadre des expérimentations scientifiques.
Et pour veiller au respect de l'éthique animale, il existe la CNEA, c'est la Commission Nationale pour la Protection des Animaux Utilisés à des Fins Scientifiques. Quel est son rôle exactement à ce genre d'organisme ?
Alors la CNEA, c'est elle qui va donc regrouper, alors il y a des associations aussi d'utilisateurs, donc des laboratoires, qui vont émettre aussi certaines recommandations, et la CNEA va être là pour justement recueillir un peu tout ce qui remonte du terrain et voilà, émettre des recommandations pour aider après aux professionnels à appliquer toute la réglementation, à remettre en cause aussi certaines peut-être pratiques animales. Et elle est notamment dans cette CNEA, il y a une sous-commission qui s'appelle la CNREEA. Alors c'est le Conseil National de Réflexion Éthique en matière d'expérimentation animale. d'accord, qui elle va regarder justement plus le côté éthique et l'utilisation des animaux, le pourquoi de l'utilisation des animaux, comment sont réalisées les choses, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est l'utilisation des animaux à des fins scientifiques repose sur la règle des 3 R qu'on cite sans arrêt, c'est-à-dire que le chercheur dans un premier temps va voir s'il y a nécessité de passer à l'animal, donc il ne peut pas faire autrement, dans ce cas-là la règle des 3 R va s'appliquer, et donc ça va dans le sens de dans un premier temps je vais réduire le nombre d'animaux au maximum, alors c'est par des tests statistiques, ce qui va définir le nombre d'animaux minimum pour pouvoir voir un effet biologique qu'on attend, donc ça va être réalisé, réduire aussi, utiliser des animaux les moins sensibles possibles, on pourrait commencer directement sur des primates, on va privilégier de commencer par des souris. Après, une fois qu'on a réduit au maximum le nombre d'animaux, eh bien, il va falloir aussi passer au raffinement, c'est-à-dire que là, on va passer justement sur tous ces réduire au maximum la douleur et les contraintes pour l'animal. Et enfin, on a la règle, donc la troisième R, c'est...
Finement remplacé ?
Le remplacement des animaux. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on va privilégier des espèces moins sensibles plutôt que des espèces sensibles. Merci Valentine.
Et la CNEA et le CNREA dépendent du ministère de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Et cette commission, la CNEA, elle s'applique sur la règle dite des 3 R. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement ?
Alors, comme Laurent vient de dire, les 3 R, c'est remplacer, raffiner, réduire, qui sont les 3 termes qu'il vient de décrire concernant l'expérimentation animale.
Et est-ce que c'est facile de la respecter, cette règle ? Comment est-ce qu'on s'y prend ?
Eh bien, justement, cette règle, c'est les comités d'éthique qui sont le garant de cette règle des 3 R. C'est le fondement des comités d'éthique. Ils vont s'appuyer sur cette règle des 3 R, justement, pour voir si tous les protocoles sont bien réalisés suivant cette règle.
Et donc, dans cette règle des 3 R, il y a la notion de remplacer. Mais par quoi est-ce qu'on remplace et sur quelle temporalité précisément ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va remplacer les espèces les plus sensibles par des espèces un peu moins sensibles. On va entre du primate et du poisson, on va privilégier le passage d'abord sur du poisson. Alors après, c'est vrai que par exemple, quand on fait l'évaluation de nouvelles molécules pharmacologiques, généralement, on va essayer de faire du screening, c'est-à-dire que dégrossir un peu la molécule, voir comment elle répond. Si on a déjà une toxicité qui est complètement létale avec notre molécule, on va privilégier des espèces qui sont dites moins sensibles. Ça peut être aussi les drosophiles, ça peut être des insectes aussi, on utilise pas mal d'insectes pour voir effectivement si cette molécule elle tue 100% des animaux, est-ce que ça sert d'utiliser directement du primate pour se dire oh ben non, il aurait fallu que j'ai fait beaucoup de casse pour peu de résultats quoi.
Et dans le remplacement, ça peut aussi être remplacer un animal par une autre technique sans animaux aussi, ou est-ce que ça fonctionne ?
Oui voilà, c'est ça, c'est la tendance actuelle. Enfin, ça fait quelques années qu'on essaye d'avancer au maximum dans ce sens-là, c'est-à-dire remplacer carrément les animaux vivants, c'est encore mieux. Et évidemment, il y a plusieurs méthodes qui sont mises en place. Les chercheurs travaillent là-dessus, bien sûr, pour essayer de mettre en place des méthodes qui consisteraient, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais par exemple, à utiliser des cellules en culture plutôt qu'un animal entier, ou arriver à reproduire un organe entier dans une petite boîte, dans une étuve, un organe qui soit vivant et qui soit capable aussi de permettre de déceler tout de suite si des molécules sont efficaces ou pas, toxiques ou pas, et sans avoir à utiliser d'animaux. Donc ça, évidemment, il y a beaucoup maintenant de recherches là-dessus. Essayer de mettre en place des méthodes alternatives qui soient bien entendu reconnues par la communauté scientifique et qu'on puisse utiliser à la place des animaux. Donc ça prend un peu de temps, mais ça a bien démarré là.
Ce qui aboutit d'ailleurs donc à l'arrêt des études faites en cosmétologie, puisque maintenant on sait fabriquer de la peau artificielle et on peut appliquer les crèmes que vous utilisez tous les jours sur ces peaux artificielles et plus passer à l'usage de cobayes ou de rats nudes, ce qu'on disait des rats nudes, alors c'est des rats qui n'ont pas de poils, et on appliquait des pommades pour voir l'effet d'un rayon UV, votre crème solaire protégée, c'était testé sur les animaux.
Voilà. Et aujourd'hui, on sait vraiment complètement s'en passer à ce niveau-là.
Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais oui, sur certains aspects, on arrive à se passer de l'animal, oui. Mais hélas, effectivement, l'intégrité de l'animal, enfin tout cet aspect global, des fois on est obligé de passer sur l'animal, ouais, pour mieux comprendre certains mécanismes.
Et à l'université de Caen, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont mises en place en termes de protection animale sur la recherche? Comment travaillent les laboratoires? Est-ce qu'il y a des choses particulières propres à Caen qu'on ne va pas retrouver ailleurs?
Alors, propre à Caen, oui. Nous, on avait créé alors le comité d'éthique avant 2013 n'était pas forcément obligatoire. Il y avait eu une démarche qui avait été engendrée par le docteur Eric McKenzie, Hubert Vaudry et moi-même sur toutes ces questions. Et ça datait dans les années 2000 où des gens avaient mis en place en plus, on avait su fédérer les trois universités normandes, à savoir l'université de Caen, l'université de Rouen et du Havre, et où les chercheurs pouvaient soumettre leur protocole au comité d'éthique, et à l'époque on donnait un avis simplement, et maintenant c'est devenu obligatoire. À l'heure actuelle, donc le Cenomexa donc est une très très grosse structure qui représente 45 experts. On a au total, on expertise pour les universités normandes et notamment aussi on a des établissements privés aussi qui font partie de notre comité, et ce qui représente à peu près 100 DAP, c'est-à-dire 100 demandes d'autorisation de projet par an. En temps, ça nécessite beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie. Hélas, les comités d'éthique sont pas assez soutenus justement des ministères, puisqu'on est tous, je dirais pas bénévoles mais volontaires, c'est-à-dire que c'est fait à titre gratuit. Alors ça c'est normal parce qu'on parle d'éthique aussi, on veut pas rentrer qu'on soit payé, mais c'est vrai que même on souhaite un peu plus qu'il y ait un soutien pour le bon fonctionnement des comités d'éthique. C'est un peu la bataille. C'est que je ne pense pas que, pour l'instant, les mesures soient prises pour faire fonctionner ces comités d'éthique à la hauteur de l'importance et des enjeux de la recherche sur les animaux, quoi.
Et les différentes actions menées par le Cenomexa, c'est ça, c'est principalement de l'expertise, ou il y a aussi autre chose?
Ah ben là, vous êtes en plein dedans. Là, je vais laisser la parole, là, parce que c'est un peu en charge. C'est Valentine qui charge un peu tout ça. Mais oui, on fait aussi, voilà, on essaie de faire prendre conscience aux gens que, voilà, les chercheurs, c'est pas des bourreaux d'animaux, et qu'ils ne font pas, ils sont pas nés en disant, ben aujourd'hui, je vais expérimenter des animaux. Donc, on essaie de faire passer le message que c'est un mal nécessaire et qu'on doit être intransigeant. Et donc, les comités d'éthique sont intransigeants. Et puis, donc.
Et puis, communiquer vers le grand public, quoi, faire de la transparence un peu sur tout ça, qui c'est resté longtemps un peu obscur. Et du coup, même moi, j'ai entendu dire ne dis rien, ne raconte pas ce que tu fais, il y a 15 ans, quoi. Et maintenant, heureusement, on essaye d'aller dans le bon sens. Et il y en a qui ne veulent pas raconter ce qu'ils font, mais. Nous, on pense, Laurent et moi, et on n'est pas les seuls, qu'il faut aller vers la transparence, et on n'a pas à se cacher derrière notre petit doigt. On sait très bien pourquoi on utilise des animaux. C'est pour des raisons valables, c'est dans un cadre réglementaire, c'est accepté par un comité d'éthique, etc. Ça nous demande beaucoup de démarches, tout ça. Mais une fois que c'est accepté, ben voilà, on a le droit de le faire et on sait pourquoi on le fait. Et c'est expliquer ça aux gens, quoi. Expliquer dans quel cadre c'est fait, montrer au grand public que c'est quand même c'est quand même pour trouver des médicaments pour eux, pour leurs petits chiens, savoir si tel produit est polluant, pour comprendre comment fonctionne le vivant, etc. C'est pas pour s'amuser avec des animaux. Ouais.
Et avec ce comité d'éthique normand, est-ce que vous menez des actions aussi de prévention auprès du grand public? Quelles vont être les actions de sensibilisation que vous allez mener auprès de ces publics qui sont pas forcément familiers de ces pratiques?
Oui, bah enfin, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment de la prévention, mais au moins de la transparence, quoi, et de l'explication un peu. Donc ce qu'on a fait là, on essaye de faire des actions diverses et variées. Alors on a pu réaliser, par exemple, on a pu modifier un trivial poursuite et le transformer avec des questions d'éthique. Donc on l'a utilisé lors du festival de l'excellence normande l'année dernière à Rouen. On va probablement le réutiliser cette année à Caen aussi. Donc voilà, c'est un jeu. En fait, les gens passent devant notre stand, puisque c'est un festival, donc il y a beaucoup de stands les uns à côté des autres. Et ils peuvent s'asseoir et puis piocher des questions. Et ça nous permet d'aborder tout un tas de sujets qui ont été mis dans ces questions-là. Après, on est là aujourd'hui avec vous. Après, on a fait le fameux Turfu Festival, là, pour du grand public. Et puis voilà, dès qu'on peut faire des actes de ce genre-là, on le fait, quoi.
Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'atelier que vous avez animé lors du dernier Turfu? Et puis un mot peut-être sur ce qu'il en est ressorti, parce que j'imagine que c'était aussi un atelier pour de la réflexion.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est un atelier en fait qui consistait à se mettre dans la peau d'un membre de comité d'éthique. Parce qu'il faut bien s'imaginer que les membres de comité d'éthique, ils reçoivent des dossiers à expertiser, où il y a marqué tel laboratoire veut faire telle expérience, va utiliser tant d'animaux, et voilà le but de son expérience. Enfin bref, il doit expliquer tout ça, c'est des gros dossiers en général. Et donc, chacun a sa propre sensibilité, bien entendu. Et donc, on voulait que les gens se rendent compte de ça. Alors, pour faire ça, il y avait une vingtaine de participants, et c'était limité à, et puis sur inscription. Donc, les participants avaient à travailler sur un résumé non technique, ce dont a parlé Laurent la dernière fois, parce qu'en fait, ces dossiers ne sont pas publics, hein, c'est des dossiers forcément... c'est pas anonyme, on sait qui fait quoi, etc. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore... tout ça n'est pas diffusé. Mais il y a quand même un résumé non technique qui est diffusé sur le site de l'Europe, là, le site qui s'appelle Allure. Et donc, on a imprimé des résumés comme ça et on les a donnés aux participants qui devaient regarder ce projet de recherche et donner leur avis éthique, comme s'ils étaient un membre de comité d'éthique et dire... quels sont les problèmes? Est-ce que je l'accepte en tant que tel? Est-ce que non, il n'est pas question de faire des expériences comme ça sur des animaux? Ou est-ce que je demande des corrections, des modifications ou des précisions? Et donc, ça a été bien parce qu'on les a laissés travailler, on était avec eux, on a discuté parce qu'il y avait quelques termes techniques, mais les résumés non techniques ne sont pas censés contenir des termes compliqués. Et donc, discuter avec eux de voilà, pourquoi on fait cette expérience, en quoi ça consiste. Et on a été... assez agréablement surpris hein, du niveau de réflexion qu'ils ont eu. Ils ont pensé à l'hébergement, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont pensé à la douleur, à la souffrance, à l'utilité de l'expérience. Ils ont pensé à la balance dommage-avantage de cette expérience-là. Et on en a beaucoup discuté. Donc, c'était très positif. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Après, peut-être il manquait un peu de gens vraiment naïfs et vraiment, vraiment grand public. Parce qu'il y avait quelques étudiants, il y avait quelques chercheurs, des gens qui sont déjà un peu...
Mais qui étaient déjà un petit peu initiés au sujet.
Un peu, à l'université, à la recherche. Donc voilà, mais c'était très intéressant. Et par contre, au Phéno, on a eu des gens qui passaient devant notre stand. Ils venaient du camembert, du cidre et coquille Saint-Jacques. Et hop, ils passaient devant notre stand. Donc c'était vraiment du grand public, pour le coup, avec le Trivial Poursuite. Donc c'est pas le même genre de discussion, mais tout ça est très intéressant de toute façon, quoi.
Et est-ce que ce qui s'est produit au Turfu Festival, c'est un atelier qui va être amené à se reproduire, peut-être auprès de publics similaires ou différents?
Et c'est en cours, je crois qu'on a fait une demande, on attend le retour maintenant de...
Oui, lors du débriefing, on a proposé beaucoup d'idées différentes, donc j'espère que ça sera reconduit, à l'identique ou pas, mais que ça sera reconduit, oui.
Et pour conclure, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que nous, grand public, justement, qui ne faisons pas partie du monde de la recherche, est-ce qu'on peut agir à notre échelle en matière de protection animale vis-à-vis d'expérimentation scientifique, hormis la connaissance? Est-ce qu'on peut aussi, nous, amener notre pierre à l'édifice?
Oui, alors oui, si, parce que dans les comités d'éthique, en fait, vous pouvez faire appel et demander à rentrer en tant que membre naïf, puisque maintenant, dans les comités d'éthique, il faut savoir qu'il y a une constitution, une représentativité minimum que nous devons avoir, à nous savoir des chercheurs, forcément, des personnes qui sont habilitées à faire le soin, l'entretien soin aux animaux, et des vétérinaires, mais aussi donc un membre naïf, non compétent, est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui est complètement... extérieur à la recherche et qui peut donner son avis sur ce que l'on fait. Donc il y a une certaine transparence vis-à-vis des comités d'éthique. Je vois que ça...
Vous nous aidez beaucoup en nous permettant de nous exprimer. Et puis maintenant qu'on en parle avec vous, vous pouvez prêcher la bonne parole autour de vous. Ça sera toujours bien et voilà, raconter ce que...
On n'y manquera pas.
Merci.
Mais merci beaucoup Laurent Chazal-Viel. On rappelle que vous êtes ingénieur d'études au CNRS et président du comité éthique normand en matière d'expérimentation animale. Et merci aussi à vous Valentine Bouet. Vous êtes enseignante-chercheuse en pharmacie et biologie et membre du laboratoire Comet. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec l'événement Pint of Science qui a démarré hier et qui se tiendra jusqu'à demain. Pint of Science, c'est 3 jours de rencontres autour de sujets scientifiques animés par des doctorants et doctorantes dans des lieux conviviaux. Par exemple, ce soir à 19h, au Sparkle Bar, se tient une rencontre intitulée « Il était une fois les bactéries » afin de mieux connaître les secrets des staphylocoques dorés et des chronobactères, des bactéries qui vivent à nos côtés. Mais attention, il ne reste plus beaucoup de place. Pour vous
inscrire, rendez-vous sur le site spintofscience.fr.
Et puis comme d'habitude, votre recommandation documentaire zoom cette semaine sur les dinosaures et plus particulièrement sur leur âge d'or. Il y a environ 150 millions d'années, le Wyoming, en particulier dans l'ouest des États-Unis, est un véritable cimetière enfoui de dinosaures et regorge de fossiles. À travers ce documentaire, vous pourrez découvrir des images inédites de sites archéologiques encore méconnus. L'âge d'or des dinosaures, c'est ce jeudi à 21h sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Annaëlle, à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.